Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Yeah.
Salut, c'est Juliette Katz. Bienvenue dans le podcast, l'émission qui refuse de se taire. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société, des conversations authentiques, sans filtre ni censure, sur des sujets parfois brûlants. Préparez-vous à être chamboulé, à rire et à peut-être penser différemment. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans ce voyage sonore où la liberté d'expression est la clé. Le podcast, c'est votre rendez-vous sans convention ni tabou. En 10 ans, le chemsex est passé du rôle de phénomène à celui de question de santé publique. Chaque année, le nombre d'hospitalisations et de décès se multiplie, et même s'il n'existe à l'heure actuelle aucune donnée statistique, de plus en plus de voix s'élèvent au sein du corps médical pour qu'une vraie campagne d'alerte soit mise en place face aux risques encourus. Pour Joseph, l'usage des drogues dites de synthèse dans un contexte donné, mais surtout dans un but sexuel, a pris de l'ampleur au moment du Covid, lorsqu'il tentait de tromper sa solitude. Aujourd'hui, même si son chemin vers la guérison n'est pas tout à fait abouti, il tenait à partager son histoire. Salut Joseph.
Bonjour.
Avant de commencer, je voulais vous dire qu'on avait fait un épisode au tout début du podcast, début de la création du podcast, où on avait invité Isa qui était venu nous parler d'une expérience qu'il avait vécue avec le chemsex, mais qui a été vraiment une expérience vraiment une ou deux fois. Et on avait aussi envie avec Julien et Maud, mais mon équipe, j'aime bien dire mon équipe alors qu'en vrai vraiment ils sont deux, comme s'il y avait beaucoup de gens, mais pas tant. On avait envie de reparler du chemsex, mais d'en parler, j'allais dire, peut-être un peu plus en profondeur et peut-être d'inviter quelqu'un qui a pu pratiquer ça pendant longtemps, qui le fait encore, etc. Donc, eh bien bonjour Joseph.
Eh bien, rebonjour.
Rebonjour. Est-ce que ça va ?
Ça va, ouais. Ouais. Le matin, donc c'est toujours un peu difficile, moi, le matin, mais ça va.
Mais il est quand même 10h, hein ?
C'est le matin.
C'est le matin, ok, le matin. Super.
Je suis un nocturne.
Très bien. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie ?
Donc moi je suis Joseph Wolfson, j'ai 31 ans maintenant, je suis comédien, auteur et metteur en scène. Donc j'ai créé ma compagnie Les Élèves de la Nuit là en 2022. On a créé un spectacle justement autour du chemsex qui s'appelle Amour Chimique.
Ok. Si tes proches devaient décrire ta personnalité en quelques mots, qu'est-ce qu'ils nous diraient ?
Oh, chiant.
Oh, relou.
Non, chiant c'est le l'adjectif. Okay. Non, je dis chiant parce que... Je suis très énergique, ouais. Parfois peut-être même énergivore. Après, je pense que je suis quelqu'un de loyal et je vais rester sur des adjectifs amélioratifs pour okay. essayer de me donner une bonne image. Donc ouais, je pense que je suis quelqu'un de loyal, de fidèle et d'amitié.
Ok. Quel est ton endroit préféré dans le monde et pourquoi ?
Il y a ce que je pense, vraiment, la première ouais. pensée qui m'est venue, qui est mon lit.
Ouais.
Et sinon...
Et est-ce que tu aimerais raconter ? Il y a peut-être autre chose ?
Ben, si on veut partir sur quelque chose d'un peu plus poétique et avec plus d'histoire, je crois que ce serait... Alors que pourtant, j'ai pas toujours très bien vécu là-bas, mais ce serait mon petit village de Picardie dans lequel j'ai grandi et qui s'appelle Cutz.
Cutz ?
Cutz,
c'est mignon. Voilà.
C'est dans l'Oise. Bonjour aux Isariens.
Mmh. En tout cas, ton lit, t'aimes bien ?
Je travaille essentiellement depuis mon lit.
Ok.
Voilà, je pense qu'il me faut un espace de cocooning de ouais, manière générale. Ouais. Le cocooning, j'aime bien.
Ouais, c'est un truc qui te plaît bien. Le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt ?
J'utilise beaucoup concrètement.
Concrètement.
Voilà.
Okay.
Alors, je suis pas quelqu'un de concret, ouais. mais concret.
Mais justement, ça vient balancer le truc.
Je pense que j'essaie de contrebalancer la chose. Ouais.
Ok. Et qu'est-ce qui te passionne dans la vie ?
Le théâtre. Ouais. Évidemment.
J'aime bien le théâtre. C'est le théâtre ou c'est la comédie, c'est de jouer
Non, le théâtre de manière générale. J'aime beaucoup aller au théâtre, regarder du théâtre. J'aime beaucoup jouer, j'aime beaucoup écrire pour du théâtre, j'aime beaucoup diriger, j'aime beaucoup même parfois juste donner des retours aux personnes qui me disent « Tiens, j'ai écrit ce texte, est-ce que tu peux me dire ce que t'en penses ?» ou « Qu'est-ce que t'as pensé de ma mise en scène ?» Voilà, tout ce qui concerne le théâtre.
Cinéma, après, moins ?
Cinéma aussi, mais c'est un milieu sur lequel j'ai moins, pas d'emprise, mais où j'y ai moins touché, donc forcément j'ai moins les connaissances. Après, j'aime beaucoup aller au cinéma. J'aimerais pouvoir en faire, réaliser un film, je pense que ça m'intéresserait beaucoup, mais ça demande un travail de construire une équipe tellement énorme.
Ouais.
Et en tout cas, à l'heure actuelle, je ne sais pas si j'en suis capable.
Ouais.
Mais après, j'aime beaucoup aussi danser. Je danse beaucoup.
Okay.
J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup la danse, j'aime beaucoup les arts.
Ok.
En deux mots.
Ok. Oui, pas les arts, parce que... Bon. Et pourquoi pas
j'aime,
aussi.
Et j'aime beaucoup l'humour, visiblement.
Alors, on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Alors, je fais un mini trigger warning. Alors, quand je dis la drogue, c'est mal, parce que on a fait un épisode sur un ancien détenu qui a vendu de la drogue, et à un moment, j'ai dit la drogue, c'est mal, pour dire que c'est quand même pas fifou. Et il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment sur Instagram, « Oh, bah, peut-être c'est pas ouf de faire ça. » Ce qui est pas faux. Mais en tout cas, le petit trigger warning que je voulais faire autour de ça, c'était de dire qu'on fait pas l'apologie des drogues, on est vraiment là pour, recevoir ton partage, ton expérience autour de ça, et qu'on c'est en aucun cas un endroit où on dit « Allez-y, consommez, c'est génial, défoncez-vous ». On n'est pas non plus dans un endroit à dire « Enfin, vous faites bien ce que vous voulez, vous êtes des adultes », mais voilà, c'était le mini trigger warning de ce début d'épisode.
Si tu veux, je peux rebondir justement sur...
Rebondis. J'adore quand on rebondit.
Parce que justement, moi, ce discours de la drogue, c'est mal, en effet, dit tel quel.
Ça
peut être relou, mais moi, je sais que, en fait, à force d'avoir reçu ce discours-là, de la drogue, c'est mal, la drogue, c'est mal, bah, il est resté un peu en sous-teinte.
Ouais.
Et pendant tout mon parcours de chemsexeur et de mec qui prend des produits, ce discours restait. Je pense que d'une certaine façon, ça m'a permis aussi de un peu de mettre le haut là parfois, ouais, en me disant attention, attention. Après, je pense que il faut aller au-delà de dire juste la drogue c'est mal. Et,
Bien sûr.
Il y a plein de choses. Enfin, par exemple, le principe de réduction des risques est très important, notamment vis-à-vis de ça.
Ouais, très bien. Podcast. Comment tu t'es construit, toi, durant ton enfance, dans ton rapport aux autres, famille, amis, etc. Et c'est quoi la vision que tu avais du monde ?
Alors, quand j'étais enfant, je crois que j'étais un enfant très heureux. Je crois que j'ai une recherche de la joie constante et de vouloir être tout le temps content, tout le temps être joyeux, à apporter du soleil aux autres.
Ouais.
Je pense que c'était déjà le cas quand j'étais petit. Donc j'ai traversé des choses qui sont pas toujours très chouettes. Mais quand j'y repense, quand on me dit « donne-moi un souvenir de ton enfance
»,
les premiers souvenirs qui me viennent de mon enfance, c'est pas des souvenirs dark, sombres, non.
Ouais.
C'est moi qui joue avec des feuilles de rhubarbe, c'est moi qui joue avec des petites figurines Dragon Ball Z sur des monceaux de bois, c'est des balades en forêt, c'est très bucolique. Hein.
Ouais,
la vie en Picardie est très bucolique, visiblement. Non, c'est mes amis d'enfance, ce genre de choses. Après, j'ai eu une adolescence un peu plus compliquée parce que découverte de l'homosexualité, donc c'est jamais très facile. Il y a certaines personnes pour qui ça, c'est très facile, mais là, on parle des années entre 2000-2010, c'était un peu plus compliqué, en particulier dans un milieu rural qui est la Picardie, où moi j'ai des souvenirs de personnes avec que je fréquentais qui, quand j'ai fait mon coming out, parce que je l'ai fait très vite, je sais pas pourquoi, j'ai dû le faire vers 13 ans,
ouais,
et je sais pas pourquoi, l'envie de me faire remarquer, si je sais pourquoi, l'envie de me faire remarquer sûrement, je l'ai dit à tout le monde et je fais genre, très bien, j'annonce au collège, je suis homosexuel, très grosse erreur.
Pourquoi ?
Ah bah parce que j'ai eu plein de remarques, j'ai eu... déjà, je me faisais bully parce que j'étais petit, brun, j'étais le petit brun à lunettes intello. C'était la période Harry Potter, donc on m'appelait Harry Potter tout le temps, ce qui n'est pas une grosse insulte, mais quand on oublie ton prénom pour ne t'appeler plus qu'Harry Potter, c'est un peu chiant au bout d'un moment. Donc je pense que ça a pas aidé dans
la construction.
Dans cette construction-là, ouais. Après, au lycée, ça a été un peu plus facile. Au lycée, les gens sont un peu plus matures, donc un peu plus intelligents. Je me prenais moins de remarques. Et surtout, j'étais moins disgracieux.
Ok.
Je pense que ça joue aussi.
Ouais. Mais t'étais plus à l'aise avec ton corps aussi
J'ai jamais été mal à l'aise avec mon corps.
Ok. Trop bien.
Enfin, j'ai jamais été mal à l'aise avec mon corps jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça.
Ok. On va peut-être en parler un peu.
Peut-être.
Quand est-ce que tu as été directement confronté à la drogue pour la première fois? Est-ce que tu t'en souviens?
Alors, la drogue pour la première fois, j'en entendais parler évidemment. Après, j'avais des connaissances parce que je savais que, par exemple, mon oncle, que je n'ai jamais connu, est mort d'une overdose quand il avait 21 ou 22 ans, dans ces eaux-là. Donc moi, je ne l'ai jamais connu, mais je connaissais son histoire, mais de manière très générale. Du coup, les premières fois que j'en avais parlé, c'était vraiment via ce biais-là. Donc j'avais vraiment ce truc très... très la drogue, c'est mal,
oui,
justement.
Oui, très grave, quoi.
Très grave, ouais. La drogue est égale mort.
Ouais.
Mais en même temps, dans ma construction adolescente, j'avais ce côté un peu... très sex, drugs and rock'n'roll, ce qui était assez paradoxal. Ouais. Voilà, il y avait Kurt Cobain à l'époque, il y avait la série Skins qui... ça l'enjolivait pas, mais ça montrait quand même quelque chose de plutôt cool vis-à-vis de la drogue. Donc j'avais un peu ces deux pans-là auprès de moi. Et la première fois que j'y étais confronté, en fait, j'avais un ami.
Un ami.
J'avais un ami donc qui nous en parlait. Donc mais nous ça nous intéressait pas. Nous la seule drogue qu'on prenait c'était l'alcool.
Ouais.
Bon on se torchait bien la gueule. Hein, ah, donc ouais. On n'était pas.
Tu parles de quel âge là?
Là je dirais 22, 23 dans ces eaux-là. Mais il nous en parlait continuellement et on voulait pas. Et une fois un soir, on va en soirée. À l'espace Pierre Cardin, et j'ai une amie qui se sent pas très bien. C'est pas qu'elle se sent pas très bien. Elle se sent bizarre. Bizarre, mais pas comme d'habitude bizarre. C'est-à-dire pas bizarre bourré, bizarre autrement.
Ouais.
En fait, cette amie avait donc mis de la drogue, de la MDMA dans le verre d'un de mes meilleurs potes et de cette amie-là. Pour leur montrer que vous voyez la drogue c'est pas si mauvais que ça, faites pas ça vraiment c'est très très moyen très mauvais moyen de faire essayer la drogue à quelqu'un.
C'est clair.
Voilà, c'est la première fois qu'en fait où j'y étais confronté, donc forcément première réaction de rejet immédiate parce que pas cool.
Ouais.
Mais ces amis là au final ont plutôt apprécié l'expérience et en fait ils en prenaient une fois de temps en temps et en fait moi j'essayais de faire en sorte de pas savoir qu'ils en prenaient parce que quand ils en prenaient ça me faisait chier. Ça m'embêtait pour eux parce que j'avais ce discours de la drogue c'est mal. D'accord. Et je me disais si vous prenez c'est mal là c'est pas bien alors que
c'est pas genre t'aimais pas parce qu'ils changeaient de comportement.
Non, parce qu'au final leur comportement ils faisaient des câlins, ils dansaient plus énergiquement, donc les effets étaient pas ils étaient bizarres mais pas plus qu'une personne qui est bourrée. C'était assez paradoxal vis-à-vis de moi qui me mettais des mines mais atroces à l'alcool, ce qui est pas forcément mieux. Mais voilà, j'avais c'est un peu ce truc de rejet. Donc quand je la prenais, je boudais.
Ouais.
Et un jour, vraiment, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Même quand j'y pense, je me dis est-ce que j'essaie de me faire peut-être des liens avec des mon adolescence de vive la débauche, sex, drugs and rock'n'roll, peut-être c'est ça, je sais pas, peut-être la volonté d'essayer quelque chose, de pas vouloir mourir bête. J'ai demandé à essayer.
Et à essayer quoi?
La MDMA.
Ok.
Et c'était génial.
Ok.
Voilà, je vais pas mentir. Si c'était pas cool, les gens en prendraient pas concrètement. Ouais. Mais
ça fait quoi comme effet? Moi, j'ai jamais pris.
Alors, les effets de la MDMA, en tout cas en ce qui me concerne, t'as un sentiment de fourmi dans les
doigts.
Ça commence par les doigts et ça remonte un peu sur tous tes.
Sur tes avant-bras.
Sur ton corps, mais c'est pas désagréable.
Ok.
C'est vraiment comme. Tu sais, les frissons que tu ressens parfois quand t'écoutes de la musique et que ça touche quelque part vraiment très fort.
Ouais.
C'est vraiment ce genre de sentiment-là. La musique, tu la sens différemment et tu débordes d'amour.
Okay.
Tu aimes les gens, t'as envie de faire des câlins à tout le monde.
La MDMA, c'est la même chose que la MD.
La MD sont la même chose. Il y a plusieurs appellations, on appelle ça la MDMA, la MD, la D.
Ah, la D, oui, ok. Et est-ce que c'est cette drogue-là qui est la drogue du violeur?
Non.
Non.
Non, non, non. Cette drogue-là, c'est ce qu'on appelle la drogue de l'amour.
Ah oui, ok.
Parce que c'est celle qui nous... Qui
donne envie d'aimer, de danser, de vivre
voilà,
pleinement.
Voilà, c'est ça. Vive la joie, vive le bonheur.
Ouais. Donc quand tu prends ça la première fois, Tu te dis, oh waouh.
Oh waouh. Et en fait.
T'étais en teuf et toi avec des potes.
J'étais en teuf avec des potes, c'est ça, ouais. En soirée. Et je me suis mis dans un coin, j'ai sorti mon portable et j'ai commencé à décrire tout ce qui se passait dans mon corps sur mon portable.
Incroyable.
Pas que tout ce qui se passait dans mon corps, mais aussi tout ce que je ressentais, tout ce qui se passait. En fait, tout ce qui se passait dans ma tête.
Ouais.
Je l'ai écrit sur mon portable.
Les pensées, tout.
Voilà, ouais. C'est ça. Et en fait, quand je l'ai relu, j'écrivais pas vraiment à l'époque. Ce que j'écrivais, je trouvais ça nul.
Ouais.
Et je l'ai relu, et c'est la première fois de ma vie où je fais... Oh,
c'est bien.
C'est bien. Merde. Ouais. C'est bien. Et après, en fait, donc, du coup, j'ai voulu continuer l'expérience, donc j'ai continué à en prendre une fois de temps en temps.
C'est quoi une fois de temps en temps?
Une fois de temps en temps, c'était un week-end comme ça, une fois par mois ou une fois tous les deux mois.
Okay.
Mais en fait, à chaque fois, je suivais le même processus, c'est-à-dire que j'en prenais, j'aimais, j'écrivais,
ouais.
Et puis après, ça y est, je m'amusais.
Est-ce que la redescente, elle est pas cool ou ça va?
Alors, la plupart du temps, les descentes sont quand même pas cool. Clairement, c'est un peu le revers de la médaille. Moi, j'ai jamais vraiment vécu de descente avec la MDMA.
Ouais.
Parce qu'au final, je passais toujours des très bonnes soirées.
Oui.
Et je regrettais pas ce que j'avais fait ou ce que j'avais dit, parce qu'au final, je ne faisais que dire « je t'aime ».
Ouais.
On regrette pas, on regrette rarement d'avoir dit « je t'aime ».
Ouais. Oui, c'est vrai.
Quoique, peut-être.
Oh, moi, je... pas regretté, ouais.
Moi, je l'ai pas regretté, mais je l'ai pas dit souvent. Je l'ai pas dit souvent sobre.
Oui, ok. Et l'AMD, pardon, je pose des questions un peu dures, mais parce que je suis assez novice, ça se prend du coup dans... Tu mets ça dans un verre?
Alors, l'AMD, en fait, tu peux la prendre de plusieurs façons, la MDMA. Soit tu peux la mettre directement dans ton verre, soit tu peux faire des paras, ce qu'on appelle les paras. En fait, c'est que tu prends un papier de la feuille à rouler,
ouais.
Tu mets ta drogue dedans, tu l'enroules et ensuite tu le mets dans ta bouche, tu bois d'un coup sec comme ça et ça descend. Après, il y en a qui la sniffent aussi.
Ok, d'accord. Et donc, bon, tu fais ces premières expériences et tu te dis, c'est cool. Et comment tu arrives à découvrir l'existence du chemsex? Est-ce que ça se fait relativement vite? Ça prend du temps ou...
Alors non, parce que j'ai 22 ans, c'était en 2012, quelque chose comme ça.
Ouais.
Donc, 2012-2013, dans ces eaux-là, en tout cas. Et moi, le chemsex, j'en ai entendu parler avant, mais vraiment, je suis tombé dedans en 2020. Donc,
okay, oui,
il y a quand même un gros gap.
Ouais.
Pour ça, c'est toujours très drôle de regarder les films qui parlent d'addiction, le mec commence avec un joint et ouais. Une semaine plus tard, il est en train de se piquer dans les chiottes. Bon, ouais. C'est un process un peu plus long.
Ouais.
Surtout, ce n'est pas forcément un process... obligatoire. J'ai des potes qui prennent de la MDMA, qui sont restés à la MDMA,
ouais.
D'autres qui ont arrêté et qui sont, enfin voilà, qui vont très bien. Ouais.
En tout cas, de 2012 à 2020, qu'est-ce qui se passe?
Alors, j'expérimente d'autres drogues, mais alors vraiment, c'est la MDMA. C'est-à-dire que voilà, j'essaie la coke, mais pas intéressant.
Ouais.
J'essaie l'ecstasy qui est plus ou moins comme la MDMA, donc forcément, je retrouve les effets, donc ça m'intéresse. Et voilà. Mais au final, rien qui me faisait dire « Ok, je suis en train de perdre pied. »
Ouais. Et t'en achetais, toi, directement?
En fait, souvent, on en trouvait en soirée.
Ok.
En soirée, ça se trouvait assez facilement. Ce qui a d'assez « cool », entre guillemets, c'est le fait que ce soit pas si cher.
Ouais.
C'est-à-dire que, par exemple, tu vas en soirée, tu prends... Si tu te contentes d'un para de MD... T'en as pour 10 balles.
Ah oui, c'est pas cher.
Mmh. Et ça peut te faire ta soirée.
Ah oui, d'accord.
Comparé aux 15 balles, la vodka Red Bull que tu sers.
C'est très cher aussi.
La coke, c'est assez cher. Mais c'est vraiment deux drogues assez différentes parce que moi, la coke, c'est ce que j'appelle une drogue d'appartement. C'est-à-dire que tu t'en prends quand t'es en soirée avec tes potes parce que ça te donne juste envie de parler. Quand t'es en boîte, t'as moins cet espace-là.
Oui, ouais, ouais. Et donc, de 2012 à 2020, tu testes quelques drogues, et à chaque fois, tu reviens à l'AMD.
Voilà, c'est ça. Et surtout, je suis dans un contrôle total de ce que je suis en train de faire.
Oui, ok.
Je suis dans un contrôle total de ce que je suis en train de faire. Et ensuite, moi, j'entends parler de ce qu'on appelle les plans chemsex.
Juste avant d'arriver à ça, à aucun moment, t'en as pris seul de l'AMD, chez toi, comme ça?
Une fois.
Ouais.
Une fois, pour l'expérience.
Pour voir ce que ça fait.
Pas pour voir ce que ça fait, mais... Ok, je prends de l'AMD dans un contexte où je sais que je vais écrire.
Ouais.
Je prends de l'AMD, je me pose devant mon ordinateur et toute la soirée j'écris.
Ok.
J'écris. Soit j'écris ce qui me passe par la tête, soit j'écris en me disant, ok, je sais que j'imagine des situations et je pars. Et j'écris. Tout n'était pas à garder, clairement. Mais il y a certaines trouvailles que je garde. Mais je me suis dit, oulala, fais très attention quand même.
Ouais.
Très attention quand même, parce que tombe pas dans un vice de je n'écris bien que quand je suis défoncé. Moi, j'avais en tête quand même Baudelaire et l'Absinthe, par exemple, ou les poètes maudits. Et même si on a tendance un peu à romantiser, à fantasmer un peu leur vie, alors que concrètement, quand tu regardes la vie de Rimbaud, c'est quand même pas ouf.
Ouais.
Enfin voilà, c'est mon Dieu, Rimbaud.
Ouais.
Oh mon Dieu, il a vécu une vie tellement rocambolesque.
Ouais.
C'était pas rocambolesque, c'était.
Ouais. C'était hard. Ouais. Bon, donc tu fais ça une fois.
Voilà, mais vraiment. Pour l'expérience.
Ouais,
quoi.
Ok. Et donc, tu découvres Arrive 2020, et donc
Arrive 2020. Après, j'en avais entendu parler avant. Donc, j'avais entendu parler des plans KEMS sur l'application de rencontre qui s'appelle Grindr, qui est spécifique aux personnes homosexuelles, hommes.
Je croyais que c'était meuf aussi.
Non. Il n'y a pas de
lesbienne.
Il n'y a pas de lesbienne. Je vais être même plus général, c'est pour des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes.
Ok.
Donc, c'est-à-dire que ça comprend aussi les personnes bisexuelles.
Ouais.
Et
t'en entends parler là-dessus parce que tu vois des trucs dans les descriptions
Bah non, en fait, non, parce que si tu mets Plankems sur Grindr, en fait, t'es banni parce que c'est interdit. En fait, tout ce qui touche aux drogues, évidemment, ce sera banni parce que c'est pas légal. Mais en fait, on te propose ce qu'on appelle des plans KEMS. Et au début, moi, je ne sais pas ce que c'est les plans KEMS. Et surtout, ça écrit CHEMS. Donc pour moi, ça se dit CHEMS.
Ouais.
Ou CHEMS.
Ouais.
Et pour moi, CHEM, c'est le verlan de moche. Donc en fait, pour moi, on est en train de me proposer un plan cul entre personnes pas très belles.
Yes. Donc tu dis, putain, c'est extrêmement flatteur. Les gens sont gonflés, enfin, quand même. Merde, et puis je suis pas
alors,
si moche que ça.
Alors peut-être que toi, oui, mais je me considère... Alors peut-être pas non plus comme un dieu grec, mais merci bien. J'ai un petit peu plus de considération. Après, on m'a expliqué ce que c'était.
Ouais.
Et j'ai compris. Et pour moi, c'était pas question... c'était pas question de ça. Pour moi, la drogue, c'est... Voilà, c'est en boîte, c'est
mais d'ailleurs, les plans KEMS, c'est pas de la MD ou de la coke. Le KEMSEX, c'est un mélange de plusieurs drogues, c'est ça hein.
En fait, le KEMSEX, concrètement, la définition pure de KEMSEX, c'est les mots chemical et sexe, donc chimique sexe.
Ouais.
Donc en fait, c'est juste prendre de la drogue, donc des produits, des substances psychoactives, dans un contexte sexuel. C'est-à-dire que tu prends des drogues pour faire du sexe.
Oui, donc ça peut être
N'importe quelle drogue. Après, en effet, dans les plans KEMS, il y a des drogues qui sont beaucoup plus spécifiques que d'autres. Enfin, que tu verras beaucoup plus... voilà, en fait, il y a deux drogues principales qui sont la 3-MMC.
3-MMC, ouais, c'est ça.
Et le GHB / le GBL. Ça, c'est la drogue du violeur.
C'est ça, ok, d'accord.
En fait, on dit que c'est la drogue du violeur parce que tu peux... c'est très...
Réglementé.
C'est très réglementé. Tu as des règles très précises. Les règles, c'est par exemple, tu ne peux pas prendre du GBL ou du GHB avec de l'alcool.
Ok.
Tu as une perte de conscience, voire tu peux mourir.
Ok.
Tu dois espacer toutes tes doses de une heure et quart.
Ouais.
Et surtout, c'est un dosage au millilitre près.
Ok.
Voilà, tu peux faire une overdose, donc ce qu'on appelle un géol. Un géol, en fait, c'est une perte de conscience une overdose de GHB ou de GBL dans le corps.
Ok.
Et donc ça se traduit par soit une perte de conscience, donc la personne s'endort.
Ouais.
Donc à ce moment-là, faut bien vérifier qu'elle respire encore.
Ouais.
Soit la personne a un comportement qui vrille, mais ouais. Vraiment... moi, j'ai vu des comportements, des crises d'épilepsie, une personne qui marchait puis qui s'effondrait d'un coup,
okay.
Des personnes qui frappent d'autres, qui mordent, des personnes qui poussent des cris d'animaux.
Ouais.
Voilà, la personne vrille complètement.
Pour revenir à ce truc de Grindr, donc on te parle un peu de ça. Donc au début, tu dis « Oh, c'est parce que je suis moche, c'est pas très sympa. » Et puis après, tu comprends que finalement, c'est du cul avec des drogues. Et alors, toi, tu te dis « Bah non. » Et au final, tu te dis « Bah pourquoi pas ?»
En fait, la première fois que j'ai essayé, c'était vraiment... Alors, je pense que je suis quelqu'un qui expérimente beaucoup.
Ouais.
Et j'ai voulu expérimenter.
Et pas ouf.
Ouais. Pas ouf, parce que...
T'expérimentes avec un mec comme ça que tu connais pas?
Ben,
ou...
un mec, oui, c'est
un
ça.
Un plan que, quoi, que, voilà, tu dis, que tu rencontres.
Qui m'a contacté, que je trouvais, somme toute, assez...
sympa.
C'est sympathique, ouais. Physiquement.
Ouais.
Et en fait, il me fait essayer. Donc, c'est la première fois que je prends du GHB.
Ouais. Et ça se prend comment?
Le GHB, en fait, c'est une substance liquide inodore et incolore qui a un goût dégueulasse, vraiment. Ouais. C'est pas bon.
Ouais.
Rien que pour ça, essayez pas. Et en fait, tu prends une très légère dose que tu mélanges dans un produit non alcoolisé.
Ouais.
Et ensuite, tu le bois.
OK.
D'un coup.
Et ça fait effet rapidement.
Et ça fait effet au bout de 10-15 minutes. Après, c'est pas comme l'AMD. C'est-à-dire que l'AMD, en fait, tu montes d'un coup, t'es genre « Waouh !» Et ensuite, t'as ton plateau.
Ouais.
Le GHB, en fait, tu commences comme ça. Et après, en fait, tu mets parfois 2, 3, 4 doses avant de pouvoir avoir des montées. Là, je parle pas de manière scientifique du tout, c'est encore une fois que
de ton expérience,
que de mon expérience et de moi comment je réagis, parce qu'en fait tout le monde réagit un peu différemment en fonction des drogues.
Mais donc là t'essayes et tu dis ouf, pas ouf
parce qu'on fait un peu de sexe et en fait très vite le mec retourne sur son portable, il est occupé à autre chose parce qu'en fait t'as un peu l'esprit qui fait donc c'est je me dis bon, j'ai essayé. Je ne recommencerai pas, hein, parce que... Pas parce que c'est pas bien, mais parce que ça me fait... Parce que c'est pas intéressant, quoi.
Ouais. Mais donc là, tu le vis une fois, et au final, tu en revis d'autres, mais peut-être différemment, avec d'autres mecs. Comment ça se passe?
Alors, c'est plutôt une longue histoire pour arriver jusque-là. En fait, c'est-à-dire que donc, j'avais cette expérience-là. Après, j'avais déjà aussi essayé des... Tu sais, quand tu sors... Bah non, tu sais pas, du coup. Mais quand on sort de soirée, parfois un peu défoncé, que tu fais...
Les
tu rentres avec un garçon.
Ouais.
Bon, ben, et que t'as... Ou avec une fille, d'ailleurs. Et que t'as une expérience sexuelle avec cette personne. Bah, c'est plutôt cool, en vrai. En règle générale.
Pas toujours.
Oui, d'ailleurs, pas toujours.
Franchement, moi, j'ai ken avec des mecs en rentrant de soirée. C'était genre, oh là là, on est fatigué, là.
Ah ouais,
6h du matin, en fait.
Aussi, hein, mais...
Non, mais je vois ce que tu veux dire, ce truc de c'est cool, parce qu'on a un peu bu, on a dansé, machin, t'as le truc, et je comprends, mais moi, franchement, ça a été globalement beaucoup moins bien que bien. Parce que moi, j'ai pas mal bu quand j'étais plus jeune, je bois plus du tout, et quand je couchais avec des mecs, à chaque fois, j'étais genre... Ouf.
Ah non, moi, mais plutôt...
Toi
plutôt,
c'était...
Plutôt ouais. Bonne expérience, donc à chaque fois, je me disais... Pourquoi je ramasse beaucoup plus de bombes quand je suis complètement défoncé que... Qu'est-ce qui se passe, là? Je ne sais pas. Sauf qu'en plus, je ne dois pas être hyper beau à voir parce que t'as les mâchoires qui se crispent beaucoup quand t'as pris de l'AMD.
Okay.
Ouais, donc, tu te fends comme ça.
Un peu comme ça.
Ce qui ne te rend pas non plus très charmant.
Ouais.
Mais enfin, voilà. Donc, du coup, j'avais eu cette expérience de rencontre sexuelle avec des drogues. Mais voilà. Et arrive le Covid. Moi, j'ai plutôt bien vécu le premier Covid, parce qu'en fait, comme tout était à l'arrêt, et que tous les comédiens, tous les metteurs en scène, voilà, tout le théâtre s'était arrêté, et même tous les autres corps de métier aussi étaient quand même vachement au ralenti, j'avais ce sentiment de me dire, bon, ben, ça va.
Ouais.
C'est le déconfinement qui a été un problème, parce que quand, justement, la vie recommençait, moi, non. C'est-à-dire que les gens avançaient et moi je faisais là, ça s'avance sans moi.
Ouais.
Je sortais d'études, donc voilà, il fallait que je me mette au travail et c'était. Ouais, ça a été très compliqué parce que les jauges des théâtres étaient très réduites.
Ouais.
Moi j'avais lancé un projet justement basé sur les écritures que j'avais faites quand j'étais de mes premières expériences de drogue. On avait commencé à travailler. Et en fait, le confinement a un peu mis... ça a enterré le projet parce que j'ai mon assistante metteuse en scène qui m'a dit « j'arrête le théâtre », une de mes comédiennes qui m'a dit « j'arrête le théâtre aussi
okay. ».
Donc ça m'a mis un peu un coup dans la tronche.
Ouais.
Le fait est que voilà, donc j'avais quand même une très grosse angoisse vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis de mon avenir de comédien, en me disant mais en fait ça fait 10 ans que j'essaie de faire ça, enfin notre comédien et metteur en scène, ça fait 10 ans que j'essaie de faire ça, ce que je me suis fourvoyé depuis le début. Et au-delà de ça, le Covid, ça m'a quand même éloigné un peu de mes amis. Je me suis un peu retrouvé seul. Et je me souviens de soirées passées seul chez moi, à entendre les bruits des gens qui vivaient autour et qui vivaient, qui étaient heureux et qui respectaient pas du tout la règle des 4 personnes dans un espace clos. Alors ça, pas du tout. Hein. Merci bien. Mais voilà, et moi aussi j'avais envie de transgresser les règles. Moi aussi, j'avais envie de vivre. Moi aussi, j'avais envie d'être heureux au final et de voir des amis. Mais bizarrement, c'est ça qui était assez paradoxal, c'est que j'envoyais pas de message pour me dire qu'est-ce que tu fais, viens on se voit, viens on va boire un verre en terrasse, viens on fait la fête, viens, parce que je me disais si les gens sont vraiment amis avec moi, c'est eux qui me contacteront.
Ok, t'attendais que ça vienne d'eux.
Et
ça venait pas trop.
Et ça m'a beaucoup atteint.
Ouais.
Et alors là, les souvenirs sont un peu flous. Je ne sais plus comment j'avais recontacté cette personne. Je ne sais plus si c'est elle qui m'avait contacté, si c'est moi qui l'avais contacté.
Ce mec de Grindr ?
Non, une autre personne.
Okay.
Une autre personne que je vais nommer X.
Ok.
Bonjour. Je vais essayer de ne pas le nommer du tout. Ce sera beaucoup plus simple. En fait, donc voilà, il me recontacte. Il me dit, écoute, je fais une soirée à ce moment-là. Viens si tu veux. Et c'était... Je ne sais pas si tu te souviens, dans la période de couvre-feu.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas à une soirée avant 20h, tu ne peux pas repartir avant 6h du matin.
Et oui, c'est vrai qu'il y avait ça.
Donc, entre 20h et 6h, tu sais que tu es là-bas et tu ne peux plus bouger.
Ouais.
Ou alors si, mais risque d'amende.
Ouais.
Et en fait, donc, j'arrive à une soirée et en fait, là, je me rends compte que j'avais mis mon plus beau velours. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, ils consomment des drogues, mais les drogues qui sont normalement habituées au chemsex, c'est-à-dire la 3-MMC et le GHB.
GHB.
Au début, moi, je dis non. Au fur et à mesure de la soirée, comme les comportements changent et que je suis pas dans le même mood, je me dis, bon, allez, de toute façon, j'ai mon expérience des drogues, je la connais, je connais mes limites, vas-y, je prends. Ça a duré, la soirée a duré plus de 24 heures. Après, je suis rentré chez moi et c'est là que j'ai commencé déjà à voir les premiers signes de « Oh, t'as peut-être un peu abusé là.
Ouais. »
Mais au final, c'était la seule personne qui me contactait.
Ouais. Et oui.
Et en fait, du coup, comme je ne faisais rien de la semaine, parce que j'étais entre eux, est-ce que je cherche un nouveau travail ? Est-ce que je persévère ? Est-ce que je continue ?
Ouais.
Et le mal appelant le mal, en fait, il y a quand même un moment où tu te fouettes un petit peu, tu te flagelles en disant « Ah, je suis malheureux, tu fais rien vraiment pour être heureux. »
Et donc tu continues de le voir un peu, en fait ?
Et au final, non, c'est pas que je continue de le voir un peu, c'est que je continue de le voir toutes les semaines, enfin tous les week-ends. Tous les week-ends, je voyais ce pote-là avec du coup tout un autre groupe de potes avec qui je deviens proche. Et au final, on se voyait que dans ces contextes-là.
Ouais.
Et au début, tu vois, c'était du vendredi au samedi.
Ouais.
Puis du vendredi au dimanche.
Ouais.
Puis du vendredi au lundi. De toute façon, je m'en fous, je bosse pas. Et là, par contre, là, j'ai eu des descentes puissantes. Là, j'ai eu des descentes vraiment très, très fortes. Je les vivais très, très mal. Je prends souvent ça comme exemple, mais en fait, tout était un obstacle. Tout était une montagne à gravir. Par exemple, le faire son lit. Je me souviens d'une fois où je devais faire mon lit et tu sais quand tu essaies de mettre ton drap et qu'il y a l'autre bout du drap qui s'enlève, alors tu vas mettre l'autre bout du drap et t'as le bout du drap de l'autre côté qui se fait... Voilà, et ça pendant 5-6 fois. C'est chiant.
Ouais.
Et ben en fait, je me suis assis, j'ai commencé à pleurer en me disant « Putain, mais même ça, t'en étais pas capable de le faire !»
Oh, un petit chat.
C'était... Et voilà, alors qu'habituellement... J'aurais juste fait genre « Ah, putain, tu m'emmerdes !» et puis je l'aurais laissé comme ça.
Ouais.
Et en fait, je pense que du coup, j'ai commencé à développer un espèce d'état dépressif où la semaine, j'étais déprimé. Et du coup, le week-end, je savais que... En fait, pas parce que j'étais déprimé, mais parce que j'étais en descente, tout simplement. Mmh. Et le week-end, en diamo, quoi. En diamo, et voilà. Donc ça, c'est comme ça que j'ai commencé à m'habituer aux drogues qu'on prenait habituellement au chemsex.
Ouais.
Et en fait, au bout d'un moment, suite à une bête histoire de coucherie, je précise, il n'y avait pas tant de sexe à cette soirée-là.
Okay.
Parfois, ça dérapait un petit peu, mais c'était vraiment pas le...
Tous ensemble ?
Non, justement. C'est-à-dire, quand ça dérapait, c'était deux personnes qui s'enfermaient dans les toilettes pour aller faire leur cochonnerie. Et, okay. Et basta. Mais y avait, c'était pas, enfin, voilà, ça, c'était pas des grosses partouzes ou quoi, ou qu'est-ce. Non, c'était en fait comme une soirée, au final, un peu random, assez basique, normale, où les gens prennent de l'alcool. Sauf que là, au lieu de prendre de l'alcool, les gens prenaient de la 3MMC et du GHB.
On va marquer une petite parenthèse, parce que sinon je n'arriverai pas à la placer, cette parenthèse, qui s'appelle « Donne ta langue aux cats ». En fait, tu as des cartes devant toi sur lesquelles sont inscrites des émotions qui vont te permettre de parler de toi. Il y a la joie, la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Je t'invite à choisir une émotion et ensuite tu vas piocher dans ce tas une carte au hasard. Quel tas tu as pris ?
J'ai choisi la joie.
Ok. Et tu prends une carte au hasard, la première qui te vient comme ça, et tu peux la regarder et nous décrire ce qu'il y a dessus, le petit dessin et le mot...
Alors, il y a un petit bonhomme qui porte des palmes jaunes et qui est sous l'eau, avec un masque, un tuba, une bouteille de plongée, et qui cherche un trésor.
Ok.
Et c'est écrit « Curieuse, curieux ».
Ok. Pourquoi t'as pris ce pôle-là émotionnel ?
Parce que c'est ma recherche constante.
Ouais, c'est ce que tu disais au début, que ouais,
c'est-à-dire
ça t'anime.
Mais je pense qu'en fait, c'est un peu le cas de tout le monde. Tout le monde a envie d'être heureux, au final.
Ouais, mais c'est pas le cas de tout le monde d'être dans cette recherche-là. Parce que t'as beaucoup de gens, en fait, qui sont happés par le négatif beaucoup plus, tu vois, qui sont comme moi. Mais pas dans un truc de dépression, tu vois, mais où on est... où la joie est plus difficile d'accès, parfois.
Ouais, peut-être.
Mais en tout cas, toi, c'est ce vers quoi tu te diriges dans ta vie depuis petit.
Oui, et c'est surtout ce que j'essaie de transmettre aux autres.
Ouais.
C'est aussi pour ça que parfois, quand je vais pas bien, j'appelle pas les autres.
Ouais.
Parce que moi, je suis là pour les autres.
Ouais.
Et je suis la personne qui est là pour les autres.
Mais parfois, t'as pas envie qu'on soit là pour toi ?
Non, c'est pas ça, mais j'ai pas envie qu'on me voit comme la personne qui va pas bien.
Et pourquoi ?
J'ai peur qu'on... Je pense que j'ai une énorme peur de l'abandon.
Ouais.
Et que le fait d'être constamment triste ou constamment déprime ou constamment en colère, les gens qui m'apprécient s'éloignent en me disant oui. Ouais.
Mais on parle pas de constance là. Tu vois, on parle d'un moment parfois où tu peux ne pas être bien. Mais je suis assez comme toi. Moi aussi, j'appelle pas trop les gens. Mais de se dire aussi qu'on peut compter, qu'il y a des gens sur qui tu peux te poser ta tête, tu vois, et dire « Là, j'ai juste besoin de parler, que tu m'écoutes et que tu me dises que t'es là et que ça va. » Parfois, ça peut être suffisant, je trouve.
Oui, je pense que c'est un process où, en fait, le fait d'appeler pour dire « Je vais pas bien », il y a ce truc de « Ouais, mais on va me voir comme la personne qui va pas bien, j'ai pas envie qu'on me voit comme ça. »
C'est un peu une faille, quoi. C'est...
Voilà, ça, moi, j'ai envie qu'on me dise « Ah, Joseph, il est solaire !»« Joseph, il est Golden Retriever Energy !»
Je connaissais pas cette expression. Ok.
Tu vois,
ouais, je comprends.
Ce truc de « je... »
Oui, t'as envie qu'on te voit dans un truc positif, quoi. D'un truc joyeux.
Ouais.
Ok. Et pourquoi est-ce que le petit bonhomme là, qui nage dans l'eau, là, est-ce que ça te parle ? Et si oui, est-ce que ça te parle à un truc en particulier ? Pas forcément avec ce que t'es en train de nous raconter là, mais est-ce qu'il y a un truc qui se rapproche d'un truc que t'as vécu, tu vois, de ce truc curieux qui cherche un trésor ?
Je suis assez curieux de manière générale.
T'expérimentes, c'est ce que tu disais.
De manière générale, j'expérimente beaucoup. J'adore essayer des nouvelles nourritures.
Ouais.
J'adorerais voyager si j'avais les moyens.
Ouais.
Je sais pas. Mais de manière générale, je suis assez curieux de tout. Donc, c'est...
Ça
me parle vraiment pour ça. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier là, qui me viendrait ou qui correspondrait au dessin ? Je fais de la plongée quand j'étais petit, mais je suis pas sûr que ça...
Ouais.
Ah bah si, anecdote, toute bête. J'ai passé mon baptême de plongée quand j'étais début de l'adolescence, je dirais 12 ans. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu alors que c'est assez simple de... En fait, il suffit de suivre les règles.
Oui, tout à fait.
Eh ben non, parce qu'en fait, il y a un petit con, c'est moi, qui s'amusait à courir après tous les poissons et à dire « Oh !» Oh, 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 étoile de mer! Oh, oh mon Dieu! Et je commençais à toucher tout ce qui me venait sous la main.
Ouais.
Un peu comme un bébé.
Ouais.
Tu sais, le bébé qui découvre et qui se met parfois en danger en disant le faire repasser, génial. Ouais. Voilà, cette curiosité, ouais, là, qui parfois me. Qui peut me mettre parfois même en danger au final.
Ouais, ouais. Pour revenir un peu au sujet, en préparant l'épisode, tu as dit un truc à Julien, mon rédac-chef. Tu disais, c'est important pour moi de vivre mes descentes, de ressentir la déprime, le contre-coup de mes excès. Craindre cette descente me permettait d'être, d'une certaine façon, raisonnable dans ma déraison. Est-ce qu'à ce moment-là, cette façon de voir les choses, ça t'aide? Est-ce que tu y vois plus clair sur les raisons qui te poussent à aller toujours plus loin, ou pas?
Non, ça ne me permettait pas de voir plus clair, ça ne me permettait pas de voir plus loin, ça me permettait juste de...
Nommer?
Non, au final, de me punir.
Ok.
De me punir en me disant, ce que je fais, là, c'est pas bien pour moi, c'est pas bien pour mon corps, parce que c'est des excès, on parle de 24, 48, ouais. 56 heures sans dormir,
sans dormir.
Ah oui, sans dormir.
Wow.
Sans boire, sans manger.
Ouais.
Donc c'est vraiment pas bon pour le corps au final, c'est pas bon pour mon esprit clairement, et le fait de vivre à fond mes descentes, ça me permet de... Oui, c'est ça, de me dire t'as fait le malin,
tu payes,
et ben paye maintenant,
ouais,
paye maintenant, parce que et ça me permet aussi du coup de me contrôler en me disant bon, je sais que je vais pas faire ça parce que j'ai pas envie de subir la descente.
Mais en même temps, ce que tu disais juste avant la petite parenthèse, le petit jeu là, c'est que t'avais la sensation que la semaine t'étais en déprime, ou t'avais l'impression d'être en dépression, et que le week-end il y avait cette respiration qui arrivait. Donc en fait, c'est comme si c'est une image de merde, hein. Mais t'avais le jour et la nuit, quoi. Le truc hyper vivant, solaire, excitant du week-end c'est fou. Et la semaine de, oh putain, je suis une merde, c'est pas bien, et c'est pas bien. Est-ce qu'il y avait un peu, tu vois, ces deux côtés en toi, de je me flagelle, comme tu disais, je suis pas bien, et en même temps, oh, j'ai trop hâte de recommencer.
Oui et non, c'est-à-dire que, j'avais trop hâte de... J'avais pas trop hâte de recommencer, mais c'était juste la seule chose que j'avais...
Ouais.
À faire de mes week-ends au final. Mmh. Ou alors rien du tout, mais rien du tout, ça me prolongeait ma solitude, ça me prolongeait ma dépression, ça me prolongeait la descente au final, parce que je savais que j'étais seul, et que même si parfois c'est très agréable de regarder un film seul chez soi, entouré d'un plaid, ben, dans cette période-là, en tout cas, pour moi, c'était juste un aveu d'échec.
Ouais.
Un aveu d'échec vis-à-vis de ma vie sociale et vis-à-vis de au final, t'as pas d'amis et...
Mais en même temps, tu faisais rien pour... c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a eu le confinement qui a un peu... tu t'es un peu éloigné de tes amis à ce moment-là, mais en même temps, t'allais pas vers eux non plus.
Non, mais eux non plus.
Oui,
non plus.
Oui.
C'est ça aussi, c'est-à-dire que... Je pense que j'ai un peu régressé à ce moment-là de ma vie, où j'avais un peu un comportement très adolescent.
Ouais.
Très en mode genre...
Eh ben, ils le font pas, moi non plus.
Voilà, exactement. Ouais. Tu veux pas, moi non plus. On va voir, okay. On va voir qui va craquer des deux.
Ouais, ouais.
Spoiler, c'est moi qui craquais.
Ouais, ouais.
Mais oui, c'est un comportement qui est pas logique d'une certaine façon. Mais je l'étais pas, et c'était une période très, très floue.
Justement, il y a l'aube du deuxième confinement, et la descente aux enfers, elle va un peu continuer, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Alors c'est ça, en fait, donc suite à la rupture que j'ai eue avec cet ami-là, au final, je me retrouvais de nouveau seul. De nouveau, à réécouter les...
Attends, tu parles de cet ami avec qui tu faisais du chemsex, enfin du...
Cet ami X.
D'accord, les week-ends, les machins.
Voilà, les week-ends.
Ah, t'as coupé les ponts.
Voilà, en fait, c'est ça.
D'accord.
Il y a une bête histoire de coucherie, et il m'a dit, oui, tu me parles plus,
toi, t'as couché avec quelqu'un d'autre, ou lui a couché avec quelqu'un d'autre, et ça a été genre, ah bah d'accord, super.
J'ai couché avec son ex, ça, voilà, ça a pas...
Non, je rigole.
Il était okay. Célibataire, c'est okay. Célibataire.
Non, mais très bien. Ok. Donc, en tout cas, ça, il a pas trop kiffé.
Il a pas du tout
kiffé.
Après, c'était quelqu'un de très rancunier de base, et bon, voilà, j'ai tous les torts du monde. Clairement, il m'avait demandé de pas le faire, et moi, en tant que son ami, je l'ai fait. Donc, grosse trahison de confiance.
Ouais, ouais.
Donc, vraiment, il a eu raison. Il a coupé les ponts. Mais du coup, moi, je me retrouve à nouveau seul.
Ouais.
Seul avec le monde qui existe autour, oui. Et le monde qui vit, et le deuxième confinement qui arrive, où je vais être encore plus seul, et je vais avoir encore plus de mal à essayer de faire mon travail, et surtout mon anniversaire qui arrive, qui va être déprimant, parce que je vais être seul. Voilà, c'était vraiment, j'avais l'impression d'avoir une espèce d'entité énorme au-dessus de moi, qui dès que je me levais le matin, je faisais seul.
Voilà. Ouais.
Et j'aime beaucoup les images. Et au final, en fait, ça m'arrivait parfois, à la suite de ces soirées que je faisais avec ce pote, de partir un peu plus tôt que d'habitude pour faire des plans chemsex.
Ok.
Donc, ça a été un peu la jonction. C'est-à-dire que, comme j'avais déjà consommé...
Dans le week-end,
bah, en fait, je continuais là-bas. Et voilà, je faisais du chemsex avec des garçons, plusieurs garçons rencontrés sur Grindr, etc., etc.
Et là, tu prenais pas que du GHB.
Si, là, toujours.
Que ça, pas de 3MMC.
Si GHB, 3MMC.
Ah, c'est un mélange, voilà. D'accord.
Ouais, okay. C'est toujours été ces deux drogues
ensemble, quoi.
Ensemble, ouais. Donc voilà, je me retrouve seul, mais je sais que j'ai sur Grindr, un vendredi soir. Je peux trouver quelqu'un de joli avec qui me retrouver.
Sans faire du chum-sex.
Et
bien sûr.
Sans faire du chum-sex, mais faire du chem-sex.
Ouais.
Et au final, je me retrouve à faire du chem-sex et à en faire tous les week-ends. Et du coup, ouais, d'avoir vraiment l'expérience chem-sex, donc c'est-à-dire vraiment les drogues et la baise.
Avant de faire le vrai chemsex, donc tu faisais du chem sans le sexe.
C'est ça.
C'est fou ce truc, parce qu'en fait, quand on a fait l'épisode avec Isaac, il nous parlait en effet de ces 24 heures, ces 48 heures. C'est parce que tu te rends plus compte de la notion du temps, tu perds la notion du temps.
Alors, tu perds la notion du temps, mais c'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que ces drogues-là, en fait, te donnent de l'énergie.
Ah oui.
En fait, par exemple, quand tu prends la 3MMC, c'est très, très, très dur de t'endormir après.
Okay.
Tu tournes dans ton lit. Moi, souvent, quand je fermais les yeux, mon cerveau faisait ta-da-da-da-da-da-da. Et en fait, il m'envoyait des images à 1000 secondes.
Ouais.
Je voyais des chats jaunes qui couraient vers moi, puis une forêt luxuriante, et puis boum, ça y est, j'étais au soleil. En fait, le soleil devenait un petit bonhomme. Enfin, là, vraiment, un peu dans un peu l'imaginaire qu'on peut avoir des délires de drogués. Ben, quand je fermais les yeux, j'avais ça quand j'essayais de dormir. Et en fait, t'as pas l'envie de dormir. Et aussi, t'as ce concept qui s'appelle la FOMO. La FOMO, c'est la fear of missing out. C'est le fait d'avoir peur de louper quelque chose.
Ouais.
Et là, dans les soirées chemsex, quand tu as la FOMO, c'est pas la peur de louper quelque chose, c'est la peur de louper quelqu'un. C'est-à-dire que tu te dis, mais si ça se trouve, quand je vais partir, il va y avoir un garçon. Mais tellement beau. Ou alors... tellement bien monté, voilà, avec un cul tellement beau.
Ouais. Oui,
ça n'arrive jamais.
Ah, ça n'arrive pas.
C'est en fait, au final, t'attends, et ça n'arrive pas. Et souvent, au début, le chemsex, quand t'en fais, ben, tu baisses constamment, mais au final, à force d'en prendre, ça arrive très souvent qu'au final, les gens se réunissent en soirée chemsex et 75% du temps, ils sont sur leur portable, sur Grindr, à chercher d'autres garçons. Et ils ne font que ça.
Waouh, ok.
Il y a des mecs qui vont en soirée. Même qui sont parfois organisateurs. Parfois, c'est très organisé. Hein. Je peux te donner quelques exemples. Moi, je me souviens d'une fois, j'arrive en partouze, donc. Un mec me tend un sac poubelle et fait genre, tu mets tes affaires là-dedans, tu les enfermes, comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de vol. Et en fait, t'enlèves donc tous tes vêtements, t'es tout nu, c'est une partout, c'est un peu normal. Tous tes vêtements, t'es tout nu, tu mets bien tes clés, tu mets dans ton sac poubelle, tac, comme ça. Et dans l'entrée, du coup, t'as un tas de chaussures et un tas de sacs poubelle. Et ensuite, tu vas dans la soirée. C'est un monde vraiment à part. Et
ça t'est arrivé d'arriver dans des endroits de teuf où tu vas faire du chemsex, mais que tu vois d'autres mecs sur leur téléphone pour chercher d'autres mecs.
Ah oui, mais c'est ça constamment. Parfois, donc tu vois, c'est vraiment, pour que tu comprennes, tu vois, par exemple, tu vas en soirée, on a soirée appartement un vendredi soir, t'es avec trois autres mecs, puis il y en a un cinquième, un sixième, un septième qui arrive, puis cinquième part, le deuxième part, du coup, t'en invites un huitième, un neuvième et un dixième, le neuvième part, le dixième part, oui. Du coup, t'en invites un autre. Et parfois, en fait, on se retrouve plus qu'à deux et on fait genre, bon, allez, on recrute.
Ah ouais, ok.
C'est une insatiété fantasmo-sexuelle, presque, j'ai envie de dire, parce que parfois, même, on couche même pas avec, oui, avec alors, les gens, quoi.
C'est ça que je voulais un petit peu aborder, c'est que tu commences à découvrir du coup le vrai chemsex, tu commences à coucher en prenant de la drogue. Est-ce que tu sens une différence? Parce que moi, j'en ai parlé avec certains potes et avec Isaac, où en effet, quand tu baises ou quand tu fais l'amour et que tu fais ça sous chemsex, c'est apparemment un truc de ouf.
Ah bah, évidemment. Évidemment, en fait, si c'était pas si bien, les gens n'en feraient pas. Ouais. C'est, en fait, c'est là tout le problème du chemsex, c'est que quand tu fais du chemsex, t'as tes sensations qui sont décuplées, t'as un sentiment de connexion totale avec l'autre, comme si tu l'avais toujours connu, comme si c'était ton âme sœur, alors que tu l'as rencontré il y a 2 heures. Et surtout, en fait, ça, tu vois, t'as tes limites.
Ouais.
Tes limites s'écartent peu à peu. C'est-à-dire que, par exemple, si, par exemple, t'aimes pas trop un peu tout ce qui est jeu de domicile,
domination.
De domination, bien sûr. De domination, de soumission. Tu peux te prêter au jeu et être complètement consentant et apprécier sur le moment, ou après même, avoir fait ça. Tu peux, par exemple, si t'aimes pas qu'on te crache dans la bouche de base, mais que là, t'es dans le truc, tu fais genre, vas-y.
Ouais.
Enfin, voilà, en fait, ça peut...
Ça va au-delà de ce que tu t'es fixé comme cadre de...
Voilà, exactement.
Et à quel moment, d'ailleurs, est-ce que t'as senti un moment où t'as dit, ah, là, j'ai dépassé un peu mes limites, là.
Ouais. Ah oui, complètement. Mais plein de fois. Plein de fois où j'ai pas regretté d'avoir couché avec la personne. Il y a des fois où j'ai regretté d'avoir couché avec la personne, mais pas toujours. Mais il y a des fois où je me suis dit, j'ai fait ça quand même.
Genre quoi?
Bah, ce rapport de domination, soumission, ouais. Quand il est trop violent.
Ouais.
Tu vois, quand ça... arrive à en venir jusqu'aux grosses baffes qui mettent qui laissent des marques,
ouais.
Sur les joues par exemple, ou
ouais.
Tu vois le fait d'étrangler, mais de manière à ce que vraiment t'es plus d'air,
ouais.
Tu fais ouf,
ouais.
Est-ce que j'avais vraiment envie de ça?
Ouais. Mais t'y es retourné?
Mais oui, j'y ai retourné.
Ouais. Tu te rends compte de ces limites où tu dis ok, là sur le moment ok, why not, et après tu dis ouais, pas sûr. Mais tu retournes, et tu retournes avec d'autres mecs, et tu continues, etc., les partous, les machins. Et il y a des moments, j'imagine, où tu disais tout à l'heure, il y a plusieurs fois où tu t'es dit « Ah, là, ça a été un peu trop long pour moi. » Est-ce que tu ressens, je sais pas, le besoin, à un moment, d'aller en parler à quelqu'un, de dire « Là, en fait, j'ai l'impression que ça, dans ce que tu nous racontes, hein, il y a ce truc du confinement encore à nouveau, où t'as cette solitude, tu vois, de... et en même temps, ce moment hebdomadaire où tu vas coucher avec ces mecs, faire du chemsex. » Ou ça tourne en rond presque au bout d'un moment?
Ah oui, ça tourne en rond complètement. Mais c'est pas dans mes pratiques que j'ai... où je me suis dit, ok, les limites ont été atteintes, faut que j'en parle à quelqu'un.
Ok.
C'est dans la durée.
D'accord.
Il y a une fois où j'ai fait 5 jours sans boire, sans manger, sans dormir.
Par contre, moi, le sans dormir, il me tue, quoi. Parce que sans boire, sans manger, il y a plein de gens qui font des jeûnes, et des jeûnes, d'ailleurs, on dit. Mais sans dormir, 5 jours.
En fait, tu n'as pas la sensation de sommeil.
Mais parce que tu prends plusieurs fois des doses. C'est pas une seule fois.
Ah oui, non, non. En fait, c'est continu. Si tu t'en prends sur toute ta...
Tes 5 jours, quoi.
Sur toutes tes 5 jours.
Plusieurs fois par jour.
Ah bah oui, oui, oui.
Ouais.
Plusieurs, enfin, en tout cas, en ce qui concerne la 3MMC, plusieurs fois par heure.
Ah oui, d'accord, ok.
Voilà, c'est une drogue qui se prend régulièrement. Et tu parlais tout à l'heure des prix. La 3MMC, par exemple, c'est beaucoup moins cher que la coke. Tu vois, okay. C'est auprès d'un dealer, c'est entre 30 et 40 euros le gramme. C'est pas...
Oui, d'accord.
C'est pas énorme, ouais. C'est pas énorme.
Mais donc, ces 5 jours, là, tu les passes avec la même personne ou alors c'est un peu en partout?
Turnover, toujours turnover.
Turnover, quoi.
Soit c'est un turnover, c'est-à-dire je suis dans un même lieu. Et ça tourne autour de moi, c'est-à-dire que c'est je vois des mecs qui arrivent, qui repartent.
T'as David, t'as Jean, t'as Paul, t'as machin.
Mais je sais que par exemple, j'ai des amis, eux, ils font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont
dans le 19e, puis dans le 7e.
Et après, ils voient qu'il y a quelque chose au dos dans le 11e, et puis dans le centre de Paris. Puis, mais okay. C'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que sur Paris, je pense que par week-end, je pense que tu peux te faire tous les arrondissements avec des partouzes.
Mais pendant ces 5 jours, est-ce que tu saurais avec combien de mecs t'as couché ?
Je couchais pas énormément, c'est ça qui est dingue. C'est que pas énormément pour moi, ça veut pas dire, ça veut pas forcément dire la même chose que pour les autres.
Ouais, okay.
Je couchais moins qu'avec d'autres garçons. Il y a d'autres garçons qui, par exemple, étaient clairement là pour du cul, pour du cul, pour du cul. Et donc, le but, c'était de, je vais dans une partouze avec plein de garçons. Le but, c'est que je couche avec tous les garçons avec lesquels j'ai un minimum d'attirance physique. Parfois même pas. Là où moi, je j'aimais bien parler avec la personne, discuter avec elle. Avec un pote, on rigole souvent en disant que j'étais un peu la buvette du chemsex.
Ouais.
C'est-à-dire que je suis au niveau de la cuisine.
Ouais.
Et pendant 3 heures, je suis genre « Ah, bienvenue, ça va ? Tu t'appelles comment ? Ok, tu fais quoi dans la vie ? Oh, super !» Et qu'on commence à avoir une discussion jusqu'à ce qu'un moment, ils disent « Mais tu... couché un moment, Joseph. Oui, pardon, je le fais. Je finis ma conversation et j'arrive dans 3 minutes. Mais en fait, c'est ça qui est dingue. En fait, on couche ensemble comme on
va boire un verre, quoi.
Comme on se tape la bise.
Ouais. Et donc, tu serais là sur ces 5 jours avec
Sur ces 5 jours, je dirais 5-6.
Ok. D'accord.
Qui est vraiment pas énorme.
Oui, non, mais en effet, je m'attendais à beaucoup plus.
Voilà, mais il y a des garçons qui peuvent en avoir 20, 30.
Ouais. Et donc, ces 5 jours, là, tu te dis, ouais, là, j'ai peut-être été un peu.
Voilà, ces 5 jours, en fait, bon, clairement, là, mon corps me dit merde. Hein. C'est d'ailleurs assez incroyable qu'il ne me l'ait pas dit avant.
Et qu'est-ce qu'il t'a dit, ton corps ?
Alors, sans rentrer dans le détail, au niveau intestinal, ça n'allait pas du tout, du tout, du tout, du tout. J'ai mal de tête, mal de crâne, total. C'est comme si j'étais comme une grippe, mais à la fois la faiblesse de pas avoir mangé, mais ne pas avoir d'appétit.
Ouais.
Enfin, voilà, c'était mon corps me dit merde. Et à ce moment-là, je me dis ok, là il y a un souci. En fait, les gens ils font pas ça d'habitude. C'est pas normal ce que je suis en train de vivre. Et en fait, à l'époque, je me faisais suivre pour la PrEP, par le checkpoint. La PrEP, je reprécise, c'est un traitement pré-exposition contre le VIH. Et en fait, donc, quand tu prends la PrEP au checkpoint, le checkpoint, d'ailleurs, je vais peut-être écrire ce que c'est. Le checkpoint, en fait, c'est un centre pour les personnes LGBTQIA+, c'est un centre de santé sexuelle où tu peux te faire dépister, mais qui va au-delà de ça. Il y a aussi tout un pan sur la santé mentale. Voilà. Et surtout, c'est gratuit.
Okay.
À l'époque où je n'avais vraiment pas d'argent, c'était très nécessaire pour moi. Et en fait, donc, ils nous demandent juste « est-ce que ça va, les médecins ?» D'habitude, je dis oui, parce que j'ai toujours ce truc de... la joie, être heureux, toujours, constamment, faire semblant. Et là, je réponds non. Et en fait, j'en parle, et c'est la première fois que j'en parlais à un professionnel de santé. Il me dit de contacter le XAPA Monceau, et je mets quelques jours quand même à l'appeler, et au bout d'un moment, je me dis, ok, bon, bah vas-y, contacte, de toute façon, clairement, t'as un problème.
Ouais.
J'appelle, et on me dit, on peut vous donner un rendez-vous dans un mois.
Dans un mois.
Voilà. Moi, pour moi, un mois, c'est dans 5 ans.
Ouais.
Un mois, c'est autant de... C'est quand même 4 à 5 week-ends avec 3 jours sans manger, sans boire, sans dormir, où je prends de la 3-MMC, qui est une drogue dont je ne sais même pas ce que c'est, du GHB, qui, à la base, c'est un détergent pour nettoyer les jantes des bagnoles, quand même. Okay. Donc, voilà, clairement, un mois, c'est pas possible. Donc, je dis non. Je dis non. Moi, c'est maintenant. Je ne sais pas combien de temps passe, pas très longtemps, mais je réfléchis, je me dis au final, concrètement, prends ce rendez-vous parce que de toute façon, tu vas continuer quoi qu'il arrive. Donc, prends ce rendez-vous et tu verras. Donc, je prends ce rendez-vous. Donc, un mois plus tard, je vais à ce rendez-vous. Déjà, bon...
Ce qui s'est passé pendant le mois, c'est...
J'ai continué. Donc, je vais à ce rendez-vous. Déjà, j'arrive avec 40 minutes de retard et complètement défoncé. Parce que j'avais fait du chemsex et que je sortais de chemsex. Puis je m'étais dit, de toute façon, comme ça, moi, on verra l'ampleur des dégâts. Ce sera très bien.
Ouais.
Et là, je fais la rencontre de Sophie Tournouer, qui est donc psychothérapeute en addictologie au XAPA Monceau, spécialisée dans le chemsex. Donc je fais sa rencontre et on commence une thérapie à ce moment-là.
Ok. Et donc tu la vois tous les...
Et on se voit une fois. En fait, le truc, c'est qu'au final, même si j'avais l'impression que mon cas était horrible, pas tant que ça.
Attends, comparé
pas tant,
à d'autres...
Comparé à d'autres, vis-à-vis et de mes prises et des risques que je prenais et de ma façon de prendre la drogue, parce que donc moi, c'était essentiellement ou du sniff ou par voie buccale. Il y a, par exemple, certains chemsexeurs qui font ce qu'on appelle le slam. Et le slam, en fait, c'est le fait de prendre la drogue en intraveineuse.
Ok.
Donc de se piquer.
Parce que ça agit plus vite.
Parce que ça agit beaucoup plus vite. Mais qui, du coup, c'est plus dangereux parce qu'en fait, tu mets des doses plus fortes d'un coup dans ton corps. Donc voilà, c'est très...
Ouais. Et donc, tu la vois et comment ça agit justement sur toi?
En parallèle de ça, il faut que je travaille. Et en fait, je me dis, ok, bon, essaie de faire de cette merde que tu es en train de vivre quelque chose. Essaie de le transformer en quelque chose d'important. Donc, je commence à écrire. Et en fait, du coup, cette thérapie-là et ce travail que j'inaugure font que je commence à diminuer parce qu'en fait avec Sophie Tournemer, on est dans un travail de recherche parce qu'en fait la thérapie de Sophie, c'est de demander à la personne, à son patient, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez arrêter? Est-ce que vous voulez diminuer? Qu'est-ce que vous souhaitez?
Ouais.
Donc moi, mon souhait, c'était de diminuer.
Ouais.
Diminuer parce que je voulais pas arrêter pour pas être seul. Et parce que je vivais aussi comme des choses plutôt chouettes, au final. J'ai fait des chouettes rencontres, au final. Il y a des gens qui sont encore mes amis que j'ai rencontrés dans ces cadres-là. Donc, j'avais pas envie de me couper de ça. Donc, voilà. Donc, on a tout ce travail de recherche. Et en même temps, voilà. Après, je rencontre Corentin, qui est aussi un ancien chemsexeur, et qui a fait aussi ce travail-là. Donc, on se décide de travailler ensemble donc sur une pièce de théâtre. Donc, on travaille sur une pièce de théâtre qui s'appelle Amour chimique. Et voilà, on commence à travailler. Et en fait, les deux, en même temps, m'ont permis aussi de prendre beaucoup plus de distance. Et,
À ce moment où, quand tu rencontres cette psy avec qui tu travailles, où elle te dit, toi, tu dis que tu veux réduire, il y a l'accompagnement, etc. Et tu arrives à espacer les prises.
Alors justement, ça a été un des travaux qu'on a fait avec Sophie, où quand je lui ai dit que je voulais diminuer, elle me dit d'accord, qu'est-ce que c'est diminuer? C'est vrai que, par exemple, tous les combien de temps?
Ouais.
Et en fait, au fur et à mesure des rendez-vous qu'on prenait, elle me demandait,
t'en es où,
est-ce qu'on est arrivé à cet objectif-là?
Ouais.
D'accord. Et mais je lui disais, mais moi j'ai envie de faire plus. Moi, j'ai envie que ce soit une fois par mois, jusqu'à ce que arriver à ce une fois par mois. Donc, j'étais plus ou moins à ce niveau-là.
Ouais, ok.
À ce moment-là.
Ça, c'était quand?
Je dirais 2021.
Ok. Et donc, voilà. Depuis de 2021 à maintenant, t'en es où actuellement?
Bah, là, c'est toujours un process continu. C'est-à-dire que ma consommation de chemsex en 2021 n'est pas du tout la même qu'actuelle.
Ouais.
Mais surtout, en fait, le gros changement qu'il y a eu, c'est...
C'est la compagnie?
Alors oui, il y a la compagnie a joué, mais surtout, c'est le pourquoi.
Pourquoi tu en as pris?
Ouais, pourquoi je vais faire du chemsex à ce moment-là?
Ouais.
Avant, il y avait quand même ce truc de désespoir, de punition, à la fois, tu vois, toujours dans ce truc un peu adolescent, rebelle, en mode genre « Ah ouais, personne veut me voir, eh ben je vais me droguer. » Oh, mon Dieu. Non, mais bon, tu vois, il y a un truc un peu comme ça, tu vois. C'est ce qui me rend un peu triste à l'heure actuelle, c'est qu'il y a certaines personnes que j'ai encore envie de voir, qui sont encore mes amis, qui je sais qu'en fait je ne peux les voir que dans ce cadre-là.
Ah.
Et je me dis « Allez, j'ai envie de le voir, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas pris, j'y vais. »
Et donc tu le prends?
Et donc, j'y vais et je prends.
Ouais.
Et je prends, mais c'est triste à dire, j'ai quasiment plus aucun plaisir. J'y prends aucun...
C'est vrai?
Ah bah, j'y prends plus aucun plaisir parce qu'en fait, au final, là, en travaillant sur la pièce, bah, en fait, t'es dans un... Quand tu travailles justement sur un sujet qui te concerne complètement directement, en fait, t'as tout un travail de réflexion que tu te fais pas forcément quand t'es juste chemsexeur et que tu ne fais que vivre ton chemsex.
Ouais. Podcast. Arrêter la drogue, pour toi, ça signifierait quoi? Ou ça signifie quoi d'ailleurs? Je dis la drogue parce qu'il n'y a peut-être pas que le chemsex.
Pour moi, le chemsex, d'une certaine façon, c'est, je considère ça comme derrière moi. Parce que, un peu comme si j'avais été alcoolique.
Ouais.
Et que parfois, je buvais un verre de temps en temps en terrasse.
Ouais.
C'est-à-dire que le chemsex, en fait, à partir du moment où c'est plus un problème pour moi...
Moi, je suis à moitié d'accord parce que, bon, encore une fois, je n'ai pas fait de chemsex, mais je peux parler par rapport à la cigarette. Parce que moi, j'ai arrêté de fumer il y a 5 mois et demi. Et je fume, j'ai 35 ans, je fume depuis que j'ai 13-14 ans. 25 cigarettes par jour, d'où cette voix merveilleuse, mon rauque et suave et grave.
J'adore les voix rauques de femmes. Hein, c'est
Et je fumais beaucoup, j'ai réduit, j'ai fait plein de tentatives. Et en fait, là, je ne sais pas si je reprendrai un jour ou pas, mais depuis que j'ai arrêté, en fait, je suis une ancienne fumeuse, mais je suis non-fumeuse. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'est que les gens qui disent « moi, j'arrive à prendre une clope comme ça de temps en temps », en fait, tu restes fumeur, même si c'est fumeur occasionnel. Et donc, pour moi, c'est comme les gens qui boivent. Il y en a qui boivent tous les jours et puis après qui arrivent à boire une fois tous les week-ends, une fois tous les mois. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, attention. Hein. Mais que si tu bois à la fin une fois par mois, eh ben, tu as toujours un lien avec la drogue, la clope, l'alcool, le chemsex. Il y a toujours une forme de lien. Donc ça veut dire que quelque part, le truc n'est pas complètement réglé. Il n'y a pas de jugement avec ça. Hein. Mais moi, je sais que si demain, je te dis... Je me fume une clope toutes les semaines ou une clope toutes les... Mais je sais qu'il y a un lien, tu vois, donc il n'est pas fini. C'est comme un mec, hein, tu vois, tu finis ta relation, ça se termine. Bah, si t'envoies encore un message une fois par mois, c'est qu'il y a un lien. C'est pas grave, mais c'est qu'il y a toujours ce lien-là. C'est qu'il n'y a pas de deuil qui s'est fait ou de... Tu vois ce que je veux dire? T'es pas d'accord?
Pas forcément, parce que tu peux vivre une très belle histoire d'amitié après avoir été avec quelqu'un, c'est ton ex, il y a quand même ce lien, et pourtant...
Si la relation s'est transformée, en effet.
Oui, mais du coup, moi, ma relation justement avec le chemsex s'est transformée, parce qu'au final, c'est pas quelque chose vers lequel je vais me diriger automatiquement, ce qui était le cas avant.
Oui, mais ce que je veux dire, je le dis parce que je sais qu'après, je vais regretter de pas l'avoir dit, mais tu vois, la dernière fois que tu l'as fait, c'est il y a quelques mois. Mmh. Vraiment, il n'y a aucun jugement, Joseph. Hein, vraiment,
je prends même pas comme ça.
Il ne faut pas avoir ça du tout, mais tu l'as fait il y a quelques mois, donc ça veut dire, est-ce que tu t'es dit, il y a quelques mois, c'est la dernière fois, en fait, là, c'est terminé, j'ai plus envie, c'est fini, ou alors, oh, bah, peut-être que je referai dans 8 mois. Est-ce que t'as mis, tu vois...
En fait, je ne me suis même pas posé la question.
Ouais.
C'est pour ça que je pense que, tu vois, c'est...
Ouais, t'as peut-être raison.
C'est pour ça que je ne me suis même pas posé la question, je ne me suis pas dit... En fait, les questions que je me suis posées, c'est plus vis-à-vis de mon pote que vis-à-vis du chemsex. C'était...
Ouais, je comprends.
C'était beaucoup plus...
Et qu'en fait, là, si je comprends bien, t'as pas fait du chemsex pour toi, mais pour lui. Un peu.
Oui, oui et non. N'importe qui d'autre m'aurait proposé de faire du chemsex, j'aurais dit non. Mais là, comme c'était lui et que j'avais envie de le voir... parce que je ne l'avais pas vu depuis quelques temps et que ben, c'est mon ami et il me manque.
Je comprends. Et en même temps, après je ne vais pas insister, mais en même temps, tu vois, quand tu disais que tu as ce truc de solitude, de la peur de l'abandon, et donc tu l'as beaucoup fait parce que tu avais cette solitude et que tu avais besoin d'être entouré, etc. Et que là, quelque part, tu le fais aussi parce que tu as peur que, sobre, tu le fasses un peu chier, vous entendiez pas.
C'est pas pareil, parce que déjà, je suis beaucoup moins seul maintenant qu'avant.
Ouais.
Donc forcément, si c'était juste un problème de solitude ou d'abandon, je pourrais me dire, je m'en fous, j'en ai plein d'autres, des amis.
Ouais.
Non, là, c'est vraiment parce
c'est lui,
que
quoi.
C'est un ami que j'aime vraiment beaucoup.
Ouais.
De manière tout à fait platonique, même pas. Putain. Zut, raté. Mais enfin voilà, ce que j'aime sans sentiments amoureux,
ouais.
mais vraiment avec des vrais sentiments amicaux d'amour,
ouais,
pour cette personne.
Ouais, ouais.
Et
ce serait génial, je trouve, pour toi, plus que pour lui, parce que ben, il est pas là, mais pour toi de se dire, en fait, je vais arriver à pouvoir le voir hors
J'aimerais.
Ça. Je trouverais ça super, parce que ça veut dire que t'aurais gagné un truc de toi, de bah, j'ai vaincu cette peur d'abandon, ou cette peur qu'on m'aime pas, ou de, tu vois, ce truc que t'oses pas trop montrer.
Ouais, je sais, c'est ça qui est chiant, c'est que, au final, tu vois, c'est un peu devenu mon partner in crime, tu vois, où on va faire les conneries ensemble.
Du coup, t'as pas vraiment répondu à la question. Arrêter la drogue, ça signifierait quoi pour toi?
Bah, en vrai, là, pour le coup, arrêter la drogue, ça signifierait d'une certaine façon une perte de 90% de mes amis, je pense.
Okay.
Chiffre totalement plouf, hein, mais on fait, tu vois, avec des amis avec lesquels je ne fais pas de chemsex, hein, c'est vraiment où on se drogue en soirée. Alors.
Oui, après, on a des pincettes.
Ce que je voulais dire. Non, c'est ça. C'est-à-dire que là, je perdrais donc vraiment 90% des gens de mon entourage et des gens que vraiment.
Mais pourquoi tu les perdrais? Est-ce que tu peux continuer à aller dans ces soirées?
Je peux continuer à aller dans ces soirées, mais ce ne sera pas la même chose. Et il y aura quand même cette tentation, parce que même si moi, mon parcours de chemsexeur, je le considère comme plus ou moins clos, même plus que moins.
Ouais.
Mon parcours de mec vis-à-vis des drogues, pour le coup, c'est encore en chemin. Ça, pour le coup, là où le chemsex, là où moi, j'ai eu la chance de ce qui, parce que c'est très dur d'arrêter le chemsex, hein, c'est très, très, très dur. Là où moi, j'ai eu la chance de pouvoir fermer la porte, celle des drogues est encore ouverte. Je pense qu'elle restera ouverte toute ma vie et je le vis bien.
Non, mais écoute, franchement, c'est bien aussi. Je trouve ça cool aussi d'être honnête avec toi, en fait, tu vois.
C'est ça.
Je trouve ça bien que tu dises le chemsex, c'est derrière moi, c'est plus que moins derrière moi, mais la drogue, il y a un lien.
La drogue, il y a un lien. Et surtout, ce qui est. Je m'aime beaucoup, tout égoïsme et tout égocentrisme. Je m'aime beaucoup quand j'ai pris de la drogue. C'est vraiment la recherche de la joie que je vais atteindre. Je saute, je danse, je suis yeah!
Ouais.
Et c'est comme ça que j'aimerais être tout le temps. Ce que je sais, c'est pas possible. J'ai vu Vice Versa et je sais que c'est bien de vivre avec ces autres émotions. Déjà, je me trouve extrêmement drôle. Quand je suis défoncé. Je suis très, très drôle. Vraiment, j'ai la punchline au bout des lèvres.
Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire à ceux qui nous écoutent et qui sont concernés ou non par tout ça?
Si jamais vous faites du chemsex et que vous considérez que ça ne va pas, il y a des solutions, sachez-le. Je sais qu'on peut se sentir seul, en particulier quand on est en descente vis-à-vis du chemsex, mais vous pouvez vous entourer, il y a des associations, il y a Aide qui fait vraiment beaucoup de choses pour la lutte justement, la prévention vis-à-vis du chemsex, le groupe SOS avec le Checkpoint notamment, il y a pas mal d'institutions. Paris est quand même on est quand même pas trop mal lotis avec Paris, parce que là, justement Paris ont des réunions annuelles justement pour parler du chemsex, donc voilà, si vous voulez vous faire aider, vous pouvez. Si vous n'avez pas essayé le chemsex, je vous dirais déjà, n'essayez pas. Au début, c'est cool, après, c'est chiant. Mais surtout, si vous, jamais vous voulez essayer le chemsex, je t'explique pourquoi je dis ça, parce que moi, j'interviens parfois pour parler justement de mon expérience et de mon histoire. Et il y a toujours des gens qui posent des questions. On m'a posé la question de quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut essayer le chemsex. La première réponse que j'ai donnée, c'est n'essaye pas.
Ouais.
Et c'est pas la réponse que voulait entendre la personne.
Ouais.
Et après, elle m'a reposé la question. Si la personne veut essayer, quels seraient ces conseils-là? Et à ce moment-là, les conseils que je donnerais, c'est si vraiment vous voulez tenter l'expérience, vraiment, je n'invite pas à le faire, mais faites-le avec quelqu'un que vous connaissez et avec des produits que vous connaissez.
Ouais.
C'est tout ce que j'aurais à dire à ce niveau-là.
C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Joseph, pour ton témoignage courageux et sincère. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais, où est-ce que tu joues, faire un petit peu ta promo, finalement?
Voilà, donc Amour chimique, qui est la pièce que j'ai écrite avec Corentin Henbert, se joue du 15 au 19 mai au Lavoir Moderne parisien, dans le 18e. Du 15 au 18 à 21h, le 19 mai à 15h.
Donc allez-y, parce que l'épisode sera sorti au moment où tu seras en train d'être sur scène. Donc n'hésitez pas à aller prendre vos places s'il en reste encore. Et tu voulais dire aussi que tu faisais un financement participatif, c'est ça?
Voilà, c'est ça, on a un lancement participatif parce que, faire du théâtre, ça a un coût. Et là, en fait, la billetterie ne couvre pas l'intégralité des frais qu'on engage,
ouais.
Notamment pour payer nos comédiens. Donc, si jamais vous ne pouvez pas venir, si jamais vous pouvez venir, vous avez pris votre place, mais que vous considérez que ce qu'on fait est important, surtout, n'hésitez pas. Nous, ça nous rendra... Content,
service. Ok, on essaie.
Ouais. Joyeux,
en effet. On essaiera de mettre le lien dans la barre d'infos si on peut. Et puis sinon, n'hésitez pas à aller regarder, en effet, sur Internet. Amour chimique. On tape amour chimique au pire sur Google.
C'est
et puis
ça,
on trouvera
et au
peut-être...
pire, vous regardez sur notre compte Instagram,
ouais.
Les Adelphes de la Nuit, tout attaché. LESADELPHES. De la nuit. C'est très
okay.
Voilà, on est sur okay. Instagram, normalement, il y aura toutes les informations.
Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, si vous êtes confronté à ce sujet, au chemsex, ou aux drogues, au sens plus large, sachez qu'il existe différents dispositifs d'écoute. Il y a par exemple l'association Lutte contre le Sida Aide, dont tu parlais tout à l'heure, qui propose une aide aux consommateurs de drogue en contexte sexuel. Il y a une ligne d'écoute ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le numéro chemsex urgence 01 77 93 97 77. Il y a aussi un groupe Facebook et une ligne SMS via l'application WhatsApp au 07 62 93 22 29. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur Twitch et sur YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine. Même studio, même micro. Je vous embrasse. Ciao. Podcast. Podcast.